Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'entre 20h et 20h30, on vous a diffusé une interview exceptionnelle de Sumbul Desai, qui est la vice-présidente en charge de la santé chez Apple. Parole rare hein, d'un VP de chez Apple. Et évidemment, cette interview, vous pouvez la retrouver d'ores et déjà en replay sur nos plateformes RMC BFM Play et sur l'appli BFM Business. Pour débriefer l'actu de ce soir, en ce mardi 21 mai, Michel Lévy-Provençal est avec nous. Salut Michel.
Bonsoir François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et c'est aussi Emmanuel Vignon qui est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir François.
Président de Sicara. Sicara, boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel est le job de Sicara, Emmanuel?
Sicara, on construit des applications qui s'appuient sur les algorithmes d'intelligence artificielle.
Pour... machine learning, tout ça?
Exactement, machine learning pour différents secteurs d'activité, le retail, la santé, la logistique... des choses comme ça.
Voilà, et tu t'intéresses bien évidemment à l'intelligence artificielle.
Ah bah, surtout que ça change beaucoup, ça évolue énormément.
Tu baignes dedans.
Et donc c'est génial.
Voilà, et on est très heureux de t'avoir avec nous pour commenter cette actu. Alors on va évoquer dans quelques instants VivaTech, bien sûr. On va évoquer aussi les constructeurs de PC qui, sous l'impulsion de Microsoft, mettent à jour leurs machines. C'est-à-dire que là, dans quelques semaines, vous aurez des nouveaux PC avec de nouveaux processeurs qui intégreront l'intelligence artificielle générative. Pourquoi faire? On en parlera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, on va évoquer Emmanuel Macron qui a ouvert aujourd'hui une séquence sur l'intelligence artificielle à l'Élysée. Une séquence qui s'est terminée d'ailleurs il y a quelques minutes, avec comme objectif ni plus ni moins de faire de Paris une des capitales de l'IA. L'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, est intervenu en tout début de cette séquence. Il explique pourquoi la France veut s'imposer dans l'intelligence artificielle. On l'écoute. Eric Schmidt.
Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de gens intelligents et un système politique fort, un engagement à long terme. La France est unique parmi les pays européens. Vous avez à la fois l'échelle et l'objectif d'être fort dans le secteur. De nombreux pays européens veulent simplement réglementer les inconvénients.
Ça fait plaisir, cet optimiste, Eric Schmidt, qui n'est pas n'importe qui quand même, hein, qui dit la France a tout pour être vraiment la capitale de l'IA, l'une des capitales de l'IA. C'est rassurant, ça fait plaisir.
Oui, et je pense qu'il a raison. On a effectivement des talents extraordinaires qui d'ailleurs nous sont chassés par les géants. Je rappelle quand même que Facebook, Meta maintenant, a monté un pôle IA en France, à Paris. C'est voilà. Le cas aussi
Piloté par Yann Lequin.
Sommité
dans ce domaine.
Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de talents. Il nous manquait peut-être la volonté ou la prise de conscience et surtout les fonds à l'échelle européenne. Et il semblerait... Alors, on n'a pas tous les détails encore de ce fonds qu'a annoncé Emmanuel Macron pendant sa prise de parole, mais ce serait une très très bonne nouvelle en effet que l'Europe puisse avoir non pas cette volonté de réguler simplement comme le disait Schmitt, mais aussi de financer et de construire un écosystème à l'échelle européenne pour nous permettre de devenir véritablement des champions face à la Chine et face aux États-Unis.
Alors, les propos du président sont ceux-ci, un réveil du financement européen sur les technologies de l'IA. Emmanuel, il est temps qu'on investisse. Alors, il y a des investissements, BPI bien évidemment, etc., mais il faudrait prendre du recul et avoir des investissements beaucoup plus massifs au niveau européen. En tout cas, c'est ce qu'a sous-entendu Emmanuel Macron.
Oui, bien entendu, il faut des investissements beaucoup plus importants, même si il faut pas non plus violer notre culture. On est relativement différent aussi de cet environnement anglo-saxon. Je pense que justement, ce qui est fort en France, c'est qu'on arrive à faire des choses peut-être plus efficacement. Quand je vois ce que Mistral arrive à faire, avec les moyens qu'ils ont, bah, je me dis que, je pense que c'est un moyen d'être fier d'être français. Voilà, on arrive à jouer dans la cour des grands.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça, c'était le slogan des années 70 qui finalement on peut en faire un parallèle.
Et d'ailleurs, je vous cite une anecdote. Je discutais avec un entrepreneur qui a passé la dernière saison de Y Combinator, qui est le fonds d'investissement l'incubateur un peu emblématique de la Silicon Valley. Et quand il discute sur place, les gens lui disent il y a deux endroits où il faut être dans l'IA en 2024, c'est San Francisco et Paris. Alors, est-ce que c'était pour être poli ou des choses comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai cet optimisme naturel qui me laisse penser qu'effectivement, Paris est une place incontournable de l'IA.
Ouais, c'est clair que Paris a d'énormes atouts. Cette idée de l'innovation frugale que tu évoquais, effectivement, on la voit au travers de projets comme Mistral, qui ont peu de fonds par rapport à des géants comme OpenAI, ou même d'une certaine manière Anthropic. Et c'est le cas aussi d'une autre start-up dont on entend un peu moins parler parce qu'elle est moins médiatisée, mais qui est tout aussi impressionnante en termes de qualité. C'est Lighton, une start-up française, qui a un modèle fondation open source, très efficace aussi. Alors, malheureusement, on n'arrive pas à rivaliser face à OpenAI aujourd'hui en France.
Je ne sais pas. Aujourd'hui, quand on regarde des benchmarks, donc des sites qui vont comparer la capacité, les performances des modèles,
On est encore loin. Mistral est quand même très très loin de GPT-4o. On peut peut-être comparer à un autre modèle open source comme Llama avec celui de Meta, mais GPT-4o est quand même très très loin dans les benchmarks.
Et c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, c'est même, impressionnant. Même à l'usage, je ne sais pas si tu as testé, Emmanuel.
Ouais, tous les jours. Tous les jours.
Le 4o.
Oui, tous les jours. Le côté multimodal est très intéressant. Moi, je m'amuse souvent à, par exemple, griffonner un schéma d'architecture. Le faire lire à l'époque GPT-4, sur mais GPT-4o le ferait aussi, et de lui demander qu'est-ce qu'il faudrait changer sur ce schéma d'architecture, est-ce qu'il est bien, combien de temps je mettrais pour l'implémenter, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui, c'est un outil, ça remplace pas intégralement ce que je fais, mais c'est vraiment un outil dont je me sers tous les jours.
Avec une rapidité d'exécution qui est impressionnante par rapport à la précédente version, c'est ça aussi la force de GPT-4o.
C'est rapide. C'est tout l'enjeu face à des acteurs comme Mistral ou d'autres startups, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un modèle fondation qui est extrêmement efficace, OpenAI, GPT-4o, et ensuite ils ont construit au-dessus des couches applicatives qui mènent progressivement vers des agents intelligent, de plus en plus intelligent, voire auto-orchestré, voire autonome. Et là, on est encore très loin en France, que ce soit avec Mistral, que ce soit avec Lighton, ou même avec une start-up qui a été annoncée ce soir, H, apparemment.
Anciennement Holistic AI, avec des actionnaires prestigieux, puisqu'il y a Bernard Arnault, Xavier Niel, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, qu'on écoutait tout à l'heure, et il y a même Amazon et Samsung qui ont investi dedans. Voilà. Pour 220 millions, je crois, 220 millions de dollars.
Et ce qui est intéressant avec cette start-up, c'est qu'en effet, ils ont l'ambition de développer non seulement un modèle fondation, mais les couches qui sont au-dessus, c'est-à-dire de créer des agents. Ils le disent dans le communiqué de presse, alors je ne sais pas s'ils vont y parvenir, mais leur objectif, c'est de créer une intelligence artificielle générale. Ils ont la même ambition qu'OpenAI. Est-ce qu'ils vont avoir le même financement ?
Alors, ce que je trouverais intéressant, c'est de faire un parallèle avec ce que disait Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a le début de son discours était très sur les usages. Donc, il tirait un peu des leçons du passé en disant, enfin du passé, on parle des 5 dernières années, en disant que on s'y est mal pris sur l'IA parce que on a laissé entendre que ça allait remplacer les gens, que ça allait détruire des emplois ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, moi, je crois fermement que l'IA crée un écosystème. Un écosystème, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel pas seulement les gens qui créent des foundation models vont pouvoir en tirer profit. Et c'est là où ça devient intéressant. On fait souvent un parallèle avec les general purpose technology, d'accord, les technologies d'intérêt général. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que general purpose technology, c'est GPT. Moi, je suis sûr qu'il y a un lien avec GPT-4 et general purpose technology.
C'est intéressant, ça.
L'électricité, par exemple, est une general purpose technology et ça crée un écosystème. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Edison qui gagne, qui en profite, mais ça transforme la manière dont on.
Ça accélère la société.
Ça accélère la société, exactement. Et pour que ça accélère la société, il faut que tout le monde l'utilise. Et donc, ce que j'ai bien aimé dans cette allocution, en tout cas dans le début de l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est cette volonté d'avoir un accès équitable et massif à l'IA. D'accord ?
Très bien. Alors, juste pour se remettre un peu dans le contexte, ce discours a été prévu de longue date. Il devait être en préambule de la présence d'Emmanuel Macron à VivaTech. L'actualité en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, a chamboulé tout ce planning, puisque Emmanuel Macron doit être dans l'avion, là, justement, pour partir en Nouvelle-Calédonie. Donc, il ne sera pas à VivaTech. Mais malgré tout, on a quelques informations qui ont été annoncées durant ce discours. Déjà, toute, on va dire, la vision du gouvernement, elle repose en fait sur les recommandations qui ont été données par ce livre de l'intelligence artificielle qu'on avait évoqué en octobre dernier. Oui. Et on a quand même quelques chiffres. Pour former massivement à l'IA, parce que évidemment la clé de tout ça c'est la formation, 400 millions d'euros vont être investis dans 9 centres d'excellence. Emmanuel Macron appelle ça des clusters IA. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça existe déjà, mais je pense que ça va être encore plus accéléré. Hein. On va dire que les grandes villes auront leur cluster IA où ils vont pouvoir former, on va dire, les ingénieurs, les talents, les pépites de demain dans l'intelligence artificielle.
Oui, mais c'est cette même idée d'écosystème. C'est-à-dire qu'un cluster, c'est un écosystème. Il y a une autre dimension en France aussi qui est très importante, c'est qu'on est particulièrement investi dans l'open source. Je veux dire, les projets, les principaux projets d'IA, c'est le cas de Mistral, c'est le cas de Lighton, sont des modèles open source. Alors, il y a une boîte qui est fondée par des Français, mais qui n'est plus française, qui est Hugging Face, qui est une plateforme
franco-américaine, je crois.
En fait, le fondateur, Clément Delangue, est français,
mais il est
à New York. Ouais. Et aujourd'hui, la boîte est américaine. Mais c'est bien cet esprit, c'est bien cette culture de l'écosystème, de l'open source qu'on retrouve notamment chez Hugging Face. Et donc, cette idée de cluster rejoint l'idée que tu évoquais d'écosystème, qui est fondamentale, parce que ça n'est pas une entreprise ou deux entreprises ou une décision étatique qui va permettre de créer une puissance IA, comme on parle de puissance nucléaire, aujourd'hui on peut parler de puissance en termes géostratégiques, géopolitiques, de puissance IA à l'échelle européenne, c'est avant tout des écosystèmes. Et ces clusters, non seulement il est très important de les avoir en France, mais il serait aussi très pertinent de les étendre à l'échelle européenne. Et c'est probablement ce que Emmanuel Macron a en tête quand il parle de financement dans un premier temps, qui serait peut-être français, mais qui a vocation à être européen.
Alors, ce fonds européen, je crois qu'il est décorrélé des 400 millions qui ont été annoncés pour ce cluster. On ne sait pas.
Non. On ne connaît pas la somme.
On ne
connaît pas le montant.
Parce qu'au niveau européen, on peut imaginer que ça peut être plusieurs milliards, espérons-le. Maintenant, il va falloir s'entendre avec tous les pays européens.
Oui, alors on ne sait pas.
C'est ça la question.
C'est pas dit que ce soit un fonds européen. Je pense que Emmanuel Macron, il a vraiment envie d'accélérer et je pense qu'il saura être pragmatique si jamais on a du mal à s'entendre avec les Européens. Et puis on l'a déjà vu avec la création de la BPI ou des choses comme ça. Donc on peut aussi avoir des initiatives qui sont franco-françaises quelque part. Là-dessus, je sais pas. Je dirais pas nécessairement que ce sera un fonds européen. Je sais pas, Michel, si tu as une idée sur la question.
En fait, le problème, c'est que la taille nécessaire pour pouvoir construire cette puissance, on ne pourra pas l'avoir à l'échelle française. Donc, si on veut peser, il faut que ce soit à l'échelle européenne. Ouais. Le plus grand fonds d'investissement, alors pas que tech, c'est le fonds norvégien, je crois, qui pèse 1300 milliards de dollars. Wow. C'est un fonds...
C'est énorme.
C'est énorme. En France, la BPI, si je ne me trompe pas, ça doit être autour de 40 milliards, il me semble. Donc... par rapport à
c'est
des
pas les mêmes échelles.
C'est pas les mêmes échelles. Il faut qu'on puisse peser, même les fonds chinois, c'est d'autres échelles, c'est en centaines de milliards.
Alors, donc,
comment est-ce qu'on fait pour agir à l'échelle européenne? Et je pense que c'est la clé.
Pour creuser un petit peu plus ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure, donc il imagine un nouveau fonds d'un montant significatif, alors le montant n'a pas été précisé, qui serait souscrit à un quart par l'État français, et l'objectif est de l'européaniser ce fonds-là, c'est-à-dire que la mèche serait française pour après peut-être une explosion européenne, et en fait il souhaiterait commencer par une initiative franco-allemande pour faire monter la mayonnaise,
logique,
en quelque sorte. Ça serait plutôt logique. L'autre chose intéressante, c'est la volonté de faire venir les acteurs étrangers aussi, et en facilitant le foncier. Parce que vous savez qu'en France, on est un pays formidable, mais il est parfois compliqué pour des boîtes américaines de venir s'installer sur le territoire français. Les procédures sont assez complexes, et donc Emmanuel Macron aimerait faciliter tout ça et dire aux Amazon, aux Microsoft, aux Google de venir investir en France, pourquoi pas Intel aussi, pour créer des puces IA. Et ça, c'est intéressant, il a signalé. Donc, peut-être que demain, il y aurait des facilités pour que des acteurs américains puissent venir sur le sol français et pourquoi pas créer des usines de puces. Parce que c'est ça l'objectif.
Alors, c'est ce qui probablement va se faire. On a tous en tête l'événement Choose France qui a eu lieu il y a quelques semaines à Versailles. Et dont les bilans, enfin moi à chaque fois que je lis un article sur cet événement-là, je vois un bilan extrêmement positif, des gens qui sont prêts à investir dans, enfin en France, et l'État français qui s'engage dans une simplification administrative et bureaucratique. Là aussi, de bon augure, je pense, et je pense que Emmanuel Macron est une figure importante et emblématique sur l'accueil et l'attractivité de la France sur la scène internationale.
Dernière chose sur ce sujet, c'est le sommet mondial de l'IA. Oui. Le précédent s'est déroulé à Séoul, hein, il y a quelques...
Le précédent, c'était au UK.
Au UK, pardon.
Ah, et celui-là était à Séoul.
Celui-ci était à Séoul. Le prochain aura lieu en France.
En France, en février 2025.
Voilà, ça sera le 11 et 12 février, je crois. Ouais, 10 et 11, pardon. 10 et 11 février 2025. Donc la France, pendant deux jours, va être au cœur des réflexions sur l'IA. Ça nous laisse quand même quelques mois pour peaufiner en fait tout ce qui a été annoncé là par Emmanuel Macron, avec peut-être des résultats tangibles début d'année 2025.
Oui, alors on en attend beaucoup de ce salon. D'ailleurs, les gens, enfin celui de Séoul n'a pas forcément très bien marché, pour être honnête. Beaucoup de gens n'étaient pas présents. Le Canada n'était pas là, la Hollande n'était pas là. DeepMind a dit c'est super, mais je te dis pas qui vient, et donc en fait on savait pas jusqu'au dernier moment si allaient venir ou pas. Donc ça a été, ça n'a pas été très suivi, et les gens se disent que celui de la France, celui de février 2025, sera vraiment considéré comme une grand-messe. Alors,
ce serait une très bonne nouvelle.
Michel, bonne nouvelle ça, non ?
C'est une très bonne nouvelle, mais ce serait encore une meilleure nouvelle si c'était pas simplement un événement français, mais un événement européen.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on aurait tout intérêt à inviter les gens d'Alpha, qui est le fameux modèle allemand, dans lequel SAP notamment. Alors, ils ont été très forts, Alpha, hein, parce qu'ils ont embarqué une grande partie des industries allemandes au sein du capital. Et donc, si on pouvait en faire un événement européen pour aller dans cette voie qui consiste à créer un mouvement européen et pas simplement franco-français, et sortir de notre posture parfois un peu arrogante, qu'on connaît, pour en faire un projet, une plateforme qui peut rivaliser avec les Américains et les Chinois, ce serait vraiment extraordinaire.
Voilà, on reviendra bien évidemment sur toutes ces annonces qui ont été faites il y a quelques minutes. Hein.
Oui.
Donc voilà, on réagit quasiment en temps réel aux propos d'Emmanuel Macron. Il est 20h49 dans l'actu, toujours dans l'IA. C'est Microsoft qui a annoncé ni plus ni moins que le PC du futur passera par l'intelligence artificielle. C'est intéressant parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, hormis ChatGPT, qui peut avoir des usages grand public, mais la plupart du temps, quand on évoque l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, c'est vraiment pour les entreprises. Là, Microsoft, avec ses partenaires, hein, c'est-à-dire les constructeurs de PC, s'apprête à sortir une nouvelle génération d'ordinateurs avec des puces qui ont été complètement repensées et qui vont permettre d'avoir de l'IA directement sur le PC, même sans être connecté. C'est ça qui est intéressant. Et c'est donc des PC à l'IA avec à l'intérieur un copilote, hein, Emmanuel. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu toutes ces annonces
qui ont
été faites par Microsoft.
Donc, déjà, oui, Microsoft, déjà il y a 50 ans, quand ils ont créé le personal computer, c'était vraiment dans leur ADN de dire je prends ce qui normalement existe dans le monde professionnel et je le ramène à la maison. C'est le personal computer. Donc là, quelque part, ils font le personal AI agent. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est la version un peu jolie, mais c'est pas nouveau, en fait. Hein. Apple a déjà créé les puces M-Series, qui équipent les MacBook Pro et les MacBook Air depuis plusieurs années maintenant. Et il y a déjà des composants qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Maintenant, dans les puces et dans les microprocesseurs des MacBook Air, on a des CPU, qui sont microprocesseurs qu'on avait il y a...
Depuis toujours.
On a les GPU, qui sont les
processeurs
graphiques, avec Nvidia, qu'on connaît bien. Et on a des NPU, qui sont des Neural Process Units, et qui sont des cœurs qui sont dédiés aux opérations d'intelligence artificielle, de traitement sur les réseaux de neurones, et qui le font plus efficacement qu'un GPU et plus rapidement qu'un GPU. Voilà. Donc, quelque part, Microsoft revient au niveau. D'accord ? Ils reviennent au niveau, et c'est leur concurrent principal, c'est Apple. Mmh. Ils ont presque du retard, ils ont presque deux ans de retard. La première puce M d'Apple, c'est 2020.
Ouais, et tu as raison, parce que d'ailleurs, le responsable de Microsoft ne s'en est pas gêné. Il a dit, en fait, nos PC sont 58% plus rapides que les MacBook Air les plus avancés, avec ces nouvelles puces. Mm-hmm. Donc voilà, on voit que c'est la bataille de la puissance, hein, Michel, aussi,
oui, dans ce domaine-là. C'est clairement la
Alors, même moi... si ça ne veut pas dire vraiment grand-chose, parce que, bon, voilà, 58% plus rapide, est-ce que dans nos usages, ça change quelque chose ?
Je pense pas que Microsoft était en retard, en réalité. Ils étaient en avance sur l'IA. Et là, ils enfoncent le clou. Ils savent que Apple est très en retard sur l'IA. Alors, sur le mobile, ça c'est très clair par rapport à des acteurs comme Samsung et Galaxy AI. Mais là, ils viennent et ils attaquent sur le poste de travail. Et ils sont en train de, en réalité... mettre un doute dans une bonne partie d'utilisateurs, chez une bonne partie d'utilisateurs d'Apple, qui aujourd'hui, disons-le clairement, n'ont pas accès aux fonctionnalités que propose Windows intégré avec des agents qui commencent à devenir de plus en plus intelligents dans les suites logicielles de Microsoft. Sauf que là, ils ont intégré, alors c'est un peu un gimmick, un bouton Copilot sur le clavier. Ouais. Bon, c'est vraiment une affaire d'intégration, mais c'est
la puissance de Microsoft qui arrive à créer une nouvelle touche sur les PC.
Mais il l'avait déjà fait avec la touche Windows.
Oui, il l'avait fait avec la touche.
Mais ça remonte à
95. Windows, ouais, quasiment.
Donc il y a 30 ans. Et là, ils arrivent à avoir une nouvelle touche copilote.
Alors, il y a un deuxième aspect.
Il y a dû avoir des tractations avec les constructeurs de PC, je pense.
Il y a un deuxième aspect très intéressant, c'est cette idée de faire fonctionner les IA localement sur les machines. Ouais. Pour l'instant, soyons clairs, Copilot plus PC, ça va être du GPT-4 et ça va être de l'OpenAI en grande partie. Mmh. Donc, ça va être du cloud. Mais,
oui, précise-le.
Oui, ça va être du cloud.
Du cloud. Ça ne tourne pas en local.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ça sera... pas du tout exploité par les nouvelles puces que tu évoquais. En revanche, il n'est pas impossible que progressivement, on voit arriver des fonctionnalités avec des modèles beaucoup plus légers, peut-être sur le traitement d'images, peut-être sur des traitements de mail ou de correction.
Mais le responsable de Microsoft l'a déjà annoncé, en fait. Il a annoncé des fonctionnalités qui tourneraient en interne sur le PC sans faire appel au réseau.
Et ça, c'est la strat d'Apple.
Et ça, c'est intéressant.
C'est la strat d'Apple, parce que Apple a vocation à protéger les données de ses utilisateurs et de faire fonctionner ses IA sur les machines, et notamment les M3, les M4 et peut-être demain les M5.
Oui, mais Microsoft a un défi que n'a pas Apple, c'est que Apple, il contrôle toute la chaîne du hardware jusqu'au software. Alors que là, Microsoft doit se mettre d'accord avec Qualcomm, avec Intel pour construire les puces qui vont héberger
et après avec tous les intégrateurs
les Sony, les Acer, etc. donc en fait, et puis et sans compter les couches logicielles, parce que tout ce que tu évoques d'avoir des agents qui communiquent, il faut bien les développer, donc il faut construire cette couche logicielle. Windows nous parle de faire évoluer Windows pour faire en sorte que ces agents arrivent. Combien de temps faut-il attendre pour que la nouvelle version de Windows soit équipée de ces choses-là? Je pense que c'est pas du jour au lendemain.
Mais ils vont s'appuyer sur OpenAI. La réalité, c'est que aujourd'hui Microsoft a une très grande partie des parts d'OpenAI, et c'est pas un hasard. Ils vont intégrer progressivement, au fur et à mesure, les fonctionnalités de ChatGPT et plus dans Windows. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nouvel accord d'Apple avec OpenAI.
Ouais.
C'est que Apple
qui est officiel. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit toujours officiel.
L'information a fuité il y a à peu près une semaine.
Ouais.
On n'a pas eu de confirmation de la part d'Apple, et on n'en aura pas probablement avant.
Oui, jusqu'à la WWDC du 10 juin.
Mais il est probable qu'à ce moment-là, ils annoncent iOS 18 avec un chatbot qui ressemblera, à mon avis, comme deux gouttes d'eau à la démo qu'on a vue d'OpenAI avec ChatGPT 4o. Avec la voix, et ça sera le nouveau Siri. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI est à l'intersection du monde Microsoft et du monde Apple.
Ça montre aussi leur puissance. Mais alors, je ne veux pas me faire un peu mon oiseau de mauvais augure, mais il faut savoir que le marché du PC est en berne. Ça ne va pas, parce qu'après le Covid, tout le monde achète des PC. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On ne va pas changer de PC tous les 6 mois. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi une manipulation marketing pour dire... écoutez, on rajoute un peu d'IA, on rajoute de nouvelles puces, et on va rebooster le marché, parce que Microsoft est très optimiste concernant ces nouveaux ordinateurs. Écoutez bien, le groupe américain estime que plus de 50 millions de ces nouveaux PC IA seront vendus dans les 12 mois à venir. C'est pas rien. Est-ce que c'est pas aussi une manipulation pour booster un peu les ventes et redonner un peu d'intérêt à un marché qui est en berne?
En fait, l'ironie du sort, c'est que celui qui a redonné le goût au PC, c'est Apple. Et pourquoi ils ont réussi à faire ça? Parce qu'ils ont évolué vers des nouvelles architectures qui s'appellent les architectures ARM, qu'on trouve d'habitude sur les téléphones portables,
oui,
sur les, en gros les terminaux qui sont des terminaux mobiles et qui doivent être frugaux en termes de consommation d'énergie. Et donc, avec cette annonce, Microsoft évolue vers une architecture de type ARM. Et cette architecture de type ARM, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet, un, de démarrer très rapidement. Je me souviens, il y a 30 ans, quand on démarrait Windows, il fallait attendre 5 minutes.
C'est vrai. Moi, je me souviens de Windows XP, où on était à deux doigts de s'endormir. Hein, quand
c'était vraiment douloureux, mais en même temps, il n'y avait que ça qui existait, donc le tolérait. Aujourd'hui, on ne le tolère plus, parce qu'un iPhone, c'est toujours allumé, et ça marche bien. Et on le redémarre jamais. Deuxième aspect, la batterie. En fait, moi, il se trouve, je suis très Apple. Donc, j'ai un MacBook Air avec équipé d'une puce M2. C'est pas la dernière, c'est pas la M3, c'est une M2. Mais moi,
même
je tiens toute la journée.
Moi,
je tiens toute la journée avec cette puce-là. Donc, bon, c'est bien que Microsoft dise je vais avoir une nouvelle puce et je vais pouvoir utiliser un PC sans le recharger toute la journée. Mais ça existe déjà. Donc c'est en ce sens où je disais que...
Non, mais est-ce que l'intelligence artificielle, le fait de dire, ben voilà, vous allez pouvoir faire du traitement d'image, avoir quelques fonctionnalités avec des prompts, etc. Est-ce que ça intéresse les gens, franchement? Est-ce que ça va révolutionner les usages qu'on a avec notre PC?
C'est ça la question. Ça les révolutionne déjà, François, au travers d'un certain nombre d'applications.
Via ChatGPT,
oui, tu vois. Mais c'est ça la force de Microsoft, s'ils le font correctement, parce que pour le moment, ils ne l'ont pas fait correctement. Quand tu regardes Copilot intégré à Word, intégré à PowerPoint, intégré à Excel, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. C'est ChatGPT qui prend le relais. Donc, s'ils font correctement l'intégration avec l'ensemble de l'environnement, là, ça vaudra le coup en termes de
production. Et je pense qu'ils ont la puissance pour le faire.
Ouais,
donc, on peut être optimiste aussi pour...
On parlera de tout ça, d'ailleurs. On va évoquer encore une fois ce sujet, puisque je reçois dans quelques minutes Nicolas Saint-Aubin, qui est le directeur de la division produits chez Acer France, qui justement en collaboration avec Microsoft sort ses PC à Copilot Plus, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il nous décrira justement les avancées et les nouveautés qui arrivent donc sur ce type de machine. Demain, VivaTech, juste pour vous dire que, évidemment, c'est la grand-messe de la technologie française. Nous y serons demain. Michel, toi aussi, tu y seras?
Oui, j'y suis.
Et tu vas...
C'est
un rendez-vous important pour toi, VivaTech.
Je vais me balader, je vais aller voir quelques stands, quelques entreprises qui m'intéressent, principalement de l'IA. Donc peut-être qu'on se croisera.
On se croisera sans doute, puisqu'on aura notre studio. D'ailleurs, si vous vous rendez à VivaTech, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, puisque Tech & Co sera enregistré depuis là-bas. Emmanuel, tu y seras ou pas?
Malheureusement pas cette année.
Mais c'est un rendez-vous qui t'intéresse?
Oui, c'est un rendez-vous important dans la tech et qui a fait ses preuves. C'est la 8e édition cette année. Musk parlera.
Oui, c'est vrai.
Tout comme l'année dernière.
Voilà. Ne boudons pas notre plaisir. Voilà, célébrer la tech, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qu'on fera à partir de demain, donc à Paris. Vous savez, il y a quelques grands rendez-vous, le CES de Las Vegas qu'on vous fait vivre aussi. Puis donc, évidemment, ce VivaTech. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel. Michel Lévy Provençal, que vous verrez peut-être dès demain arpenter les allées de VivaTech si vous vous y rendez, prospectiviste fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et merci Emmanuel Vignon.
Merci François.
Tu reviens quand tu veux, Emmanuel, tu es le bienvenu.
Avec plaisir.